Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Dans un rapport publié au début de ce mois de juin sur l'impact de la pandémie de coronavirus, la Fondation Mo Ibrahim met en lumière les vulnérabilités structurelles des économies africaines révélées par cette pandémie. Pour les fondateurs de cette fondation, les dirigeants africains doivent saisir l'occasion de la période de relance post-pandémie pour définir et porter un nouveau modèle de croissance pour les continents qui ne dépendent plus que des importations. Une situation qui n'a pas épargné la RDC, dont l'économie est majoritairement basée sur les importations. Selon vous, quelles devraient être des mesures à prendre par la RDC pour éviter et sortir, bien sûr, des importations? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Cette émission est mise en nom de par Hippolyte Kapanga et Kyria Mbatia est à la réalisation. Et devant ces micros, Pierrot et la Mégis, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous. À tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comme je le disais tout à l'heure, Mo Ibrahim estime qu'il serait mieux pour le gouvernement africain de définir un nouveau modèle économique qui permet de sortir des importations compte tenu de fragilité de nos économies à partir de la pandémie à coronavirus. Et en RDC, qu'est-ce qui devait être fait pour sortir des importations? Et c'est ce qui constitue le débat dans cette émission. Et nous en parlons avec le ministre Jean-Lucien Boussa, ministre des Commerces extérieurs. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez présenté au niveau du gouvernement la synthèse des stratégies qui devaient être mises en place pour sortir des importations. Alors, on sait que la pandémie à coronavirus a montré aussi nos faiblesses sur cette question. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Comment se présente la balance aujourd'hui d'une manière globale sur la question des importations avant que nous puissions évoquer les stratégies que vous avez initiées?
Voilà, donc aujourd'hui on peut considérer que sur une analyse faite par mon ministère, donc par nous-mêmes, sur 5 ans, ça veut dire de 2015 à 2019, il a été observé que la facture des importations de la République démocratique du Congo était très élevée, bien sûr, relativement à la puissance de notre économie. Pour ne prendre que l'année 2019, notre facture des importations s'élève à 7,2 milliards de dollars. Pour 7,4 milliards de dollars, en 2018, donc je dis bien les chiffres, 7,2 milliards de dollars pour les chiffres disponibles de 2019. Et sur cette facture, nous notons un certain nombre de questions qui attirent notre attention et qui doivent attirer notre attention. Mmh. C'est que vous avez 2 milliards de dollars dépensés par des achats à l'extérieur du pays pour les produits pharmaceutiques de l'ordre de plus ou moins 500 millions de dollars américains. Vous avez les produits alimentaires plus les produits animaux, volailles, viande, etc., pour une valeur qui est estimée à plus ou moins 900 millions de dollars américains. Et nous importons les produits pétroliers pour 286,5 millions de dollars américains, tandis que les textiles, les vêtements que nous avons chacun, en se réveillant, il a les vêtements sur le corps jusqu'à quand il va dormir. Et ça nous coûte 269 millions de dollars américains. Le tout, j'ai indiqué tout à l'heure, nous fait 2 milliards de dollars américains sur les 7 milliards, pour ne citer que cela. J'indique que cela pourquoi? Parce qu'il s'agit de produits essentiels pour la vie d'un citoyen. C'est chaque jour qu'on achète des produits pharmaceutiques parce que c'est chaque jour que les gens sont malades. C'est tous les jours que nous devons manger. C'est tous les jours que nous devons être transportés ou être conduit en voiture, ou que nos tracteurs, nos grands camions qui transportent les marchandises doivent avoir donc des produits pétroliers. Ce sont des produits que je considère comme étant stratégiques. Et sur ces produits-là, nos exportations sont élevées à 2 milliards de dollars américains. Donc je voudrais m'arrêter à ce niveau, peut-être que pour nous permettre de... D'autres chiffres existent, hein, les importations des machines, c'est essentiel, c'est 1,8 milliard de dollars américains. Vous avez les produits chimiques qui sont essentiels dans, en tant qu'input dans les industries, qui avoisinent 1,2 milliard. Et donc voilà, cette facture ainsi c'est partie,
voilà.
Nous donne à penser que nous devons travailler pour changer les paradigmes.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre vie ne dépend que de l'extérieur, on peut le dire ainsi.
En tout cas, aujourd'hui, sans importation, nous sommes réduits à plus de 80-90% de notre offre intérieure. Donc notre offre intérieure est insuffisante, on peut dire, pour faire face à notre demande intérieure, pour parler simplement à nos besoins essentiels.
Alors, donc, à quel niveau, monsieur le ministre, à quel niveau se trouve la faiblesse? Est-ce que c'est le manque d'une politique bien définie depuis des décennies pour que nous puissions accroître notre production? Quand vous avez fait les diagnostics, à quel niveau se trouve le problème aujourd'hui par rapport à cette faiblesse faiblesse de dépendre de l'extérieur?
Je pense que la République démocratique du Congo a été vers les années 60, 70, jusqu'à 74, 75, un pays qui avait une structure... du commerce extérieur qui était totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Nous étions un pays excédentaire, nous étions un pays qui était autosuffisant, presque sur le plan alimentaire, nous étions un pays qui avait beaucoup de recettes qui provenaient des exportations, etc. Aujourd'hui, la structure de notre économie a évolué, beaucoup évolué, en défaveur de la production interne, plutôt en défaveur de la production intérieure. Vous savez aussi que le pays a été complètement désindustrialisé. Nous avons pris, nous, la République démocratique du Congo, par nos gouvernements successifs, nous avons pris à un moment donné des mauvaises mesures. Nous avons aussi mis en œuvre des mauvaises politiques et nous avons aussi manqué de politiques adéquates. Mauvaises mesures, pour ceux qui sont nés vers les années 60, la réalisation, la reprise des biens, des industries, des entreprises, on peut parler de la nationalisation, pour être plus clair. Ça a été désastreux pour notre économie, ce qui fait que beaucoup d'investisseurs ont été découragés et sont partis. On a connu la conséquence de cela, c'est la désindustrialisation du pays. Deuxième élément majeur, ce sont les pillages des années 91, 92, 93, qui ont détruit notre tissu industriel, pour ne pas parler de notre tissu économique. Et troisième facteur, ce sont les guerres que nous avons connues, successivement. Et donc, ces trois facteurs majeurs ont totalement déstructuré et détruit notre socle de production intérieure. Et donc, aujourd'hui, c'est un tissu industriel, c'est un tissu économique qui doit être totalement reconstruit pour nous permettre d'inverser donc la tendance, parce que notre tendance vers les années 60-80, on peut dire ça comme ça, a été la tendance qui a permis d'asseoir l'économie sur la production intérieure. Et la tendance, après ces années-là, à la suite de toutes ces mesures et de toutes ces guerres et de tous les pillages qu'on a connus, la tendance aujourd'hui est que le pays dépend totalement, sinon quasi totalement, pour des questions, pour les produits stratégiques, j'ai cité les produits pharmaceutiques, alimentaires, animaux, pétroliers, des importations. Et nous sommes obligés aujourd'hui d'abord mettre le débat sur la table, mettre la question sur la table, qu'elle soit connue de tous les Congolais, et en même temps, prendre des mesures qui s'imposent pour inverser la tendance. Ce n'est pas impossible, nous l'avons connu, et nous pouvons revenir là-dessus. Ce n'est pas impossible, beaucoup de pays du monde étaient dans cette situation, ils ont réussi, grâce à des politiques économiques appropriées, remettre l'économie sur les rails.
Alors maintenant revenons aux propositions. D'une manière brève, aujourd'hui vous avez quand même présenté cette note, je crois très bien. Quels sont les axes prioritaires, en bref, qui devaient être pris en compte dans vos propositions?
Nous avons plus ou moins 6 axes essentielles. Je les ai indiquées, mais je ne vais pas les énumérer toutes, parce que bon, peut-être ça sera encore très long. Le pays importe les biens pour lesquels il a des avantages comparatifs avérés. Mmh. Donc ça, c'est des un. Nous sommes en train d'importer, j'ai parlé de produits, j'ai parlé tout à l'heure de produits alimentaires. Mmh. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Les maïs, les riz, la farine, etc. Mais ce sont des produits pour lesquels le pays dispose de ce que nous appelons des avantages comparatifs avérés. 80 millions de terres arables, des pâturages très riches, des rivières, des ruisseaux, des fleuves, la possibilité de faire des étangs pour avoir du poisson. Mais ce pays dispose de tout ce qu'il lui faut pour ne pas importer la viande, pour ne pas importer le maïs, pour ne pas importer les riz, pour ne pas importer ceci et cela, pour ne pas importer les poissons, pour ne pas importer la viande de porc, pour ne pas importer les viandes de volaille. Ce pays dispose, pour ne pas importer les oignons. Savez-vous que nous importons les oignons, en tout cas pour les statistiques 2019, pour une valeur de 10 millions de dollars américains. Ce pays dispose de dotations naturelles pour ne pas importer les textiles. Nous avons une expérience dans ces pays où nous avons la sauteskine, etc. Il y avait des plantations de coton dans ce pays ici, mais tout ça a été complètement détruit. Nous sommes capables de nous autonomiser de ce point de vue-là. Donc, je disais, c'est le premier axe, c'est le plus important. Il faut retourner nos politiques économiques sur l'exploitation des biens pour lesquels nous avons des dotations naturelles avérées. Deuxième élément, important d'ailleurs, nous importons les produits pour lesquels l'industrie locale dispose des capacités installées, à même de rencontrer de façon substantielle la demande intérieure. Mais les problèmes, c'est lesquels? Je prends quelques cas. D'abord, nous avons des jugements qui nous permettent d'exploiter du ciment gris dans le pays. Nous avons la possibilité d'avoir des lits de palme dans ce pays. Nous avons des usines brassicoles dans ces pays aussi, pour ne citer que ces trois produits. Donc nous sommes capables de le produire et de réduire sensiblement notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais quel est le problème? Quels sont les problèmes? En termes de défis à relever, il y a les défis des connectivités du pays, les défis infrastructurels. Le ciment qui est produit dans le Congo central à travers quatre usines qui ont une capacité installée de 3,2 millions de tonnes. Ce ciment, comment est-ce qu'on peut le parvenir dans le Kasaï central? Comment il doit arriver à Lodja? Comment il doit arriver à Kasumbalesa? Comment? Problème d'infrastructure. Pas de chemin de fer, pas de route qui nous permette de faire des longs trajets et d'amener les produits d'un coin du pays à un autre. Comme dans les autres pays africains, l'Afrique du Sud peut prendre les produits à 2000 kilomètres. C'est 1500 kilomètres. Donc, le défi infrastructurel, celui de la connectivité des provinces du pays, celui de la connectivité entre les villes du pays. Ça, c'est un défi. Le défi énergétique. L'offre énergétique n'est pas suffisante, même si on a des dotations dans ce domaine. Il faut transformer ces dotations naturelles en véritable richesse pour faire face à la problématique de la demande énergétique ininterrompue des industriels. Il y a un souci par rapport à cela aussi. Donc, pour ne citer que c'est l'eau, mais certaines industries ont besoin de l'eau. Mais nous avons des fleuves, des rivières. Comment prendre l'eau d'un coin vers un autre?
Voilà. Alors, monsieur le ministre, parce qu'on a encore assez de temps avec les auditeurs qui vont aussi intervenir, vous avez présenté là quatre axes vraiment prioritaires, c'est très important, mais cela aussi demande des gros investissements. On va revenir là-dessus et peut-être que vous allez encore compléter d'autres axes, comme vous en avez parlé ici. Si, là, on a déjà exploité
quatre. Deux éléments importants pour les auditeurs.
Allez-y.
Deux éléments importants.
Rapidement, oui.
Le pays a une expérience en matière de montage des véhicules.
Oui.
Mais nous importons des véhicules, des motos dans ces pays. Les motos, c'est 96 millions de dollars. Les véhicules, c'est 151 millions de dollars. Les camions, les voitures, c'est 109 millions de dollars. Donc, nous importons autant de véhicules alors que nous pouvons installer dans ces pays des usines de montage, des camions, des voitures, des motos.
Et ça, c'est important. On va revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'auditeurs qui voudraient aussi intervenir. Ils se sont inscrits dans cette émission et les autres sont aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Héritier, vous êtes à Kisangani. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Héritier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à l'invité.
Vous avez
suivi. Je voudrais partager l'avis de l'invité lorsqu'il fait son analyse sur le développement. Mais ici, j'attire l'attention à consulter la route qui parle du développement comme étant le changement ou l'avancement d'un état moins humain à un état plus humain. Et parler du développement en RDC, en tout cas, ce n'est pas la situation de la pandémie qui peut faire en sorte que l'économie de la RDC soit freinée. Mais plutôt, il y a absence de la volonté des autorités. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque le ministre parle de problèmes infrastructurels, ici chez nous à Kisangani, nous avons la Sotesi par exemple. Mais je n'ai jamais vu cette famille qui exige l'épargne de Sotesi le jour de la dot. C'est le problème de donner la valeur à nos produits. La RDC ne travaille pas à côté de l'absence de la volonté politique, parce que ce sont les grands hommes politiques qui ne veulent pas l'avancement de la RDC, qui freinent le développement de la RDC. Imaginez, avec les sociétés qui nous amènent les produits pétroliers, je m'excuse, nous avons les carburants à temps réel. Mais l'État est incapable de nous fournir l'énergie, le carburant. Et comment ces gens-là amènent ces histoires, même à l'intérieur du pays, pendant que l'État est incapable de nous donner à l'intérieur du pays? Le Congolais ne travaille pas. Je prends l'exemple de la forêt équatoriale, monsieur le journaliste. Nous avons une grande forêt, nous avons la terre arable, nous ne voulons pas travailler. Pour parler de la production, il faut travailler. Il faut mettre les trois facteurs en exergue. La nature, le travail et le capital. Mais qu'est-ce que la RDC possède comme nature et qui en profite? Ce sont les autorités. Et quand on nous enseigne l'histoire du Congo, on nous dit la RDC c'est un pays riche et c'est faux. Ce sont les autorités de la RDC qui sont riches et le peuple est en train de couper dans la misère. Voilà un peu.
Merci beaucoup.
Je pense que la RDC doit quitter la politique de la mettre en disant la politique de la dépendance pour produire et concurrencer les autres pays sur le rang mondial.
Merci beaucoup, héritier. Vous avez dit que tout réside au niveau de la volonté politique. Si on a la volonté politique, on peut tout transformer. Mais vous avez quand même glissé un mot important, la valorisation de la production locale. Vous avez dit, quand on dote aujourd'hui, on ne voit pas une seule famille qui exige qu'on leur donne l'épargne Sotesi. Je crois que tout le monde veut ce qui est produit à l'étranger. Et là, vous avez évoqué la question de la production locale. Comment valoriser la production locale? Je vois que cela est parmi les mesures proposées par le ministre Jean-Lucien. Vous savez que nous sommes dans cette émission. Merci beaucoup, héritier. Christian, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Christian.
Merci, Pierrot. Je crois que nul ne peut nier que l'explosion démographique rend les développements économiques plus difficiles. Mais cela également joue deux rôles. C'est aussi un moyen ou encore une grande possibilité pour pouvoir émerger l'économie, parce que vous aurez le main-d'œuvre nécessaire pour justement arriver à bout de vos besoins. Cependant, concernant l'économie congolaise, moi je crois que il faudrait ici beaucoup plus se baser sur la diversification de l'économie et tout en mettant beaucoup plus l'accent sur trois secteurs, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et ici, il faudrait beaucoup plus avoir une politique nationale, que cette politique soit nationale, provinciale et locale. Et dans une approche beaucoup plus, je dirais, une approche dite GAR, c'est-à-dire gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire que dans chaque province, que l'on donne à chaque province une possibilité d'exploiter tous les secteurs que nous venons de citer. Vous savez que, par exemple, à Bandundu, vous produisez, vous travaillez sur la terre, vous travaillez sur de l'eau, vous travaillez sur les produits du poulailler, de sorte que après chaque mois, après un mois, vous pouvez dégager au moins 3 tonnes de tous ces produits. Vous voyez que si l'ensemble de nos provinces arrivent quand même à produire, à cultiver sur ces trois secteurs, nous pouvons facilement résorber cette question et automatiquement il y aura avec effet boomerang la diminution ou encore la création d'emplois, et cela va résorber ces problèmes de chômage des jeunes. Mais pour y parvenir, je crois qu'il y a un certain nombre de préalables. Donc il faudrait être beaucoup plus prévoyant dans ce sens que il faut doter d'abord le pays d'un réseau routier reliant toutes les provinces. Les ministres est revenu sur ça, et il faudrait encore avoir une couverture énergétique, tant en énergie électrique ou encore en énergie photovoltaïque, pour faciliter justement l'industrialisation de tous ces secteurs, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser nourrir plus de 80 millions d'habitants si on continue à travailler de manière artisanale. Il faut vraiment industrialiser tous ces secteurs-là. Mais à cela s'ajoute aussi les problèmes de l'homme politique congolais avec qui il travaille. Vous savez, ici, dans ces émissions à Parole aux auditeurs, Radio Okapi, bref, il y a des gens qui émettent de bonnes idées, il y a des gens qui donnent des solutions bancables. Mais est-ce que ces gens sont consultés, est-ce que ces gens sont contactés? Lorsque les politiques entendent ces gens d'idées, ils s'en accaparent, ils les exploitent à leur manière et finalement, sans pour autant savoir comment vraiment arriver à réaliser ou encore à transformer ces idées à une chose palpable. Et donc, l'homme politique, on le doit aussi savoir tenir compte de ce que nous appelons beaucoup plus les ressources humaines. C'est très important. Il ne faut pas seulement s'appuyer sur vos conseillers, il ne faut pas seulement s'appuyer sur, je ne sais pas moi, tous ceux que vous connaissez. Et il faut également regarder aussi à côté, consulter aussi d'autres personnes. Radio Okapi est mieux placée et connaît qui peut apporter quelque chose dans tel ou tel autre domaine. Ça sera très important parce que le développement ici n'est pas seulement un problème de politique, n'est pas un problème de juristes, n'est pas un problème des économistes, c'est un problème de tout le monde. Alors il faut que tous nous puissions travailler la main dans la pâte pour, n'est-ce pas, amener...
Merci beaucoup, Christian. Vous avez souhaité là évoquer la question de l'expertise, on peut le dire ainsi. Vous êtes revenu sur ce que l'invité disait tout à l'heure par rapport à la question de l'énergie, des secteurs qu'il faut aujourd'hui prioriser. Alors, nous revenons à vous directement, monsieur Jean-Lucien Boussa, ministre des Commerces extérieurs. Alors, en écoutant les deux auditeurs, il y a notre ami de Kisangani qui parlait de la question de la valorisation de la production locale, mais y compris la question de la volonté politique pour concrétiser tout cela. Christian parle de l'expertise. Vous avez évoqué beaucoup de choses qui demandent aussi l'expertise, mais qui demandent aussi les moyens.
Bien sûr, la question de la volonté politique, c'est la question essentielle. Je remercie en passant tout les intervenants, Monsieur Héritier, Monsieur Christian. Donc la question de la volonté politique est une question très, très importante. Elle est déterminante, mais aussi la problématique de la qualité des élites congolaises. Quelles veulent les élites congolaises? Comment pensent-ils le pays? Ces élites intellectuelles, ces élites qui sont dans les affaires, qui sont dans la société civile, qui sont dans les églises, comment pensent-ils la société congolaise? Je veux dire, donc la question de la volonté politique est une question essentielle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, est déterminé à changer les paradigmes en affichant une volonté politique sans réserve sur les questions du développement économique. Et en affichant une détermination aussi très claire par rapport à l'inversion des choses. Il faut changer. Et donc la volonté politique est une question essentielle, et si nous en sommes arrivés là aussi, je pense parce que la volonté politique n'était pas toujours au rendez-vous, mais au-delà de la volonté politique, il y a une question des politiques cohérentes, des politiques qui visent le développement économique réellement. Est-ce que nous avons mené ces politiques-là forcément? Je doute fort que nous ayons mené clairement, au bout de 5-10 ans, des politiques très claires. Je donne un exemple simple. Nous décidons que ce pays ne doit pas dépendre à 100% des produits pharmaceutiques importés. Qu'est-ce que nous faisons après? Mais nous devons mettre en place des mécanismes d'encadrement d'investisseurs, d'attrait des investisseurs, à partir des incitations fiscales nécessaires pour que ce ces investissements arrivent et qu'ils soient sécurisés? Ça, ce sont des questions aussi essentielles. Nous voulons nous voulons l'autonomie sur le plan alimentaire. Mais nous savons que il faut développer le secteur agricole, mettre le moyen. Mais est-ce que nous avons, oui, certes, prôné l'agriculture priorité des priorités, mais est-ce qu'avons-nous défini des politiques claires là-dessus? Avons-nous mis le moyen? Si nous avons mis le moyen, avons-nous contrôlé l'utilisation de ces ressources? Donc ces questions sont claires et je voudrais donc dire que la question de la volonté politique, couplée à celle des mises en œuvre des politiques adéquates, mais aussi à l'évaluation de nos politiques, sont des questions essentielles.
Voilà.
La valorisation de la production intérieure aussi, ben oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous imaginez que nous puissions importer de l'eau aromatisée pour plus de 20 millions de dollars alors que nous avons de l'eau potable? Oui, comme il le dit, mais notre pagne de Sauteski, pourquoi n'est-il pas valorisé par rapport au wax hollandais, etc. Ce sont des questions essentielles. Mais je pense que nous sommes capables de pouvoir changer.
Alors, monsieur le ministre, si je regarde bien dans le tableau de vos propositions des mesures, il y en a beaucoup, peut-être qu'on ne pourra pas tout revenir. Alors, si nous reprenons par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure les biens de consommation qui sont qui prennent beaucoup d'argent, par exemple, vous avez parlé de bière, de boissons gazeuses, vous avez parlé de farine, tout ça, mais dans la volonté, il y a ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles mesures le gouvernement peut-il prendre aujourd'hui pour dire, voilà ce que je peux faire dans une année, dans 6 mois, dans 2 ans, voilà la mesure, ce que vous pouvez proposer aujourd'hui pour qu'on réduise quand même la dépendance, par exemple, à ces produits des premières nécessités aujourd'hui?
Tout à fait, mais je voudrais quand même dire à M. Christian que la question de l'expertise est une question essentielle. Et le Congo ne manque pas d'experts sur le sujet. Et donc, je pense que tous les ministres de la République, contrairement à ce qu'il a indiqué tout à l'heure, sont recours à l'expertise congolaise, mais une expertise qui n'est pas orientée sur une politique déterminée n'amène aucun résultat. Donc, cependant, par rapport aux mesures, je dirais par exemple que il y a des mesures immédiates. Par exemple, lorsque nous disons que le ministre du Commerce extérieur doit prendre des mesures pour protéger l'industrie locale, ça, c'est des mesures à prendre immédiatement. Parce que nous l'avons expérimenté. Lorsque nous avions pris, il y a 2 ans, les mesures de restriction des importations des ciments gris, des barres de fer, des boissons gazeuses et des bières dans la partie ouest du pays pour prendre les 3 premiers produits, les bières et boissons pour l'ensemble du territoire national, qu'est-ce que nous avons observé en termes de résultats? La courbe de la production de ces industriels a augmenté. Les emplois ont été préservés. Et il y a eu des effets induits sur d'autres secteurs d'activité économique. Donc ces mesures vont être prises immédiatement. On ne va pas attendre pour les prendre. Probablement la semaine prochaine, elles seront déjà prises. Parce que nous avons observé qu'en les prenant, ceux qui vivent à Kinshasa, ils se rappellent que dans la ville de Kinshasa, il y a une boisson qui circule qui s'appelle Kuka. Mais cette boisson a failli mettre à mal nos sociétés brassicoles. Lorsque nous avons pris la mesure de protection des sociétés brassicoles, des industries brassicoles plutôt, cette dernière soirée, le chiffre d'affaires des brassicoles a augmenté. Donc, oui, des mesures avec des résultats concrets et l'échéance est immédiate. Nous avons des mesures telles que la révision du code des investissements. Parce que nous devons avoir un code d'investissement plus attractif à comparer à celui des pays voisins. Congo-Brazzaville, Angola, Kenya, c'est pas un pays voisin, mais c'est un pays avec lequel on commerce le plus. La Zambie. Nous devons, dans une approche comparée, avoir un code d'investissement plus incitatif pour que les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, alors que nous avons des dotations, ils savent qu'en venant au Congo, nous avons plus d'incitation, nous avons plus de protection de l'État congolais que si nous allions dans les pays voisins ou ailleurs. Ces mesures-là vont être prises immédiatement.
Merci.
Et donc, le travail est déjà en cours. Pendant, il y a d'autres mesures encore qui nous sont montrées
de prendre.
Il y a des mesures immédiates, il y a des mesures de très court terme,
Et à long terme. Alors, on va revenir là-dessus. Vous avez évoqué quand même les éléments importants sur la production de la protection de l'industrie locale. On reviendra aussi parce qu'il y a des auditeurs qui ont pu beaucoup plus évoquer la question de la fiscalité. Ils estiment que notre fiscalité doit être revue pour pouvoir protéger aussi la production locale. Et ça, cette question va revenir là-dessus. Le temps d'écouter encore les auditeurs. Prof Joe Sekimonio, vous êtes avec nous en ligne. Mais je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. C'est les 081-890-4969. Et vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci d'écouter parole aux auditeurs. Rapidement, nous donnons la parole à vous, professeur Joe Sekimonio. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, nous dégageons les pistes des solutions pour permettre à la RDC de ne plus dépendre des importations. Quelle est votre proposition? Vous avez suivi ce que le ministre disait tout à l'heure, ainsi que quelques auditeurs. Quelle est votre proposition pour que la RDC sorte des importations?
Je dis, on doit reformuler la question. C'est même la question, je pourrais dire, mal posée. Est-ce qu'il y a des pays qui vivent de l'importation? C'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est idéologiquement, la RDC est démodée. Hein. Pour dire, il y a des pays comme le Burundi, dont le secteur agricole, c'est 90%, mais c'est un pays pauvre. Il y a des pays comme, Singapour, dont le secteur agricole, c'est plus que zéro, mais c'est un pays riche. On doit reformuler la question, le rôle de l'État. Est-ce que le souci de l'État, c'est que les gens mangent à leur faim? Non, ça c'est archaïque. Parce que moi, je peux faire mon argent, c'est à moi de décider de manger ou de ne pas manger. On doit reformuler nos questions. Et si un peu, je peux taquiner pour dire, on doit élever la qualité du débat. Par exemple, déjà sur le plan structurel, on est inadéquat. Ça veut dire, on parle de numérique au moment où la poste ne fonctionne pas. Comment vous allez développer un business numérique quand on ne peut pas envoyer un produit du point A du point A à B? Sur le plan même de politique économique, hein, on est mal positionné parce que on parle du sous-sol, on parle du sol, on parle pas du Congolais. On parle de l'agriculture. L'agriculture, le sous-sol va pas développer la RDC. On parle du ventre pour parler de la tête au lieu de penser que la tête va nourrir du ventre. Pour en dire, autrement je veux le dire ceci, c'est pour dire, au lieu de parler des investisseurs, tout ça, on doit parler du Congolais au centre, le revenu du Congolais. Pour que le Congolais se développe, c'est pas question d'import ou export, c'est question d'élever la valeur qu'on attache au Congolais, qui est le SMIC. Et on parle du capital humain, ça veut dire quoi le capital humain? Dans un temps moderne, on parle de la qualité des moyens de participation au 21e siècle. Alors, on doit repenser même la discussion. Je pense qu'aujourd'hui, en RDC, la discussion, elle est encore sous un air colonial. Et on doit se déchaîner de ce piège. Même la façon dont on définit qu'est-ce que c'est qu'être un Congolais, c'est encore un piège. Hein? Par exemple, aujourd'hui, ça a un impact socio-économique. Quand on dit un Congolais, celui qui est né, mais ses parents doivent être d'une tribu, c'est déjà un piège socio-économique. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on a, pour un exemple, Minebwe, où les gens se disent il est de Katakaukombe et c'est son territoire. Ce qui ralentit même le développement économique. Mais si on disait juste sur la loi des terres, celui congolais est né au Congo, ça va un peu déclencher un des fondamentaux pour le développement. On parle même, quand on parle dans nos discussions, tout ce qu'on est en train de dire, on veut une croissance économique. Un boom économique, mais on peut créer une croissance économique sans développement économique. La croissance, c'est juste que la taille. Mais ça ne veut pas dire que ça aura un impact sur le Congolais. Hein, Glencore peut produire beaucoup plus de cuivre, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il change la vie. L'ICATI n'aura pas d'impact. Parce que le salaire des Congolais, il est trop bas.
Alors, mais comment peut-on augmenter les salaires, les payer aux Congolais beaucoup de salaires s'il n'y a pas une production? S'il n'y a pas des entreprises qui produisent, comment les SMIC, les salaires vont-ils augmenter s'il n'y a pas une production, s'il n'y a pas des investissements pour la production?
Et ça, c'est un mythe pour dire que le SMIC a à voir avec la production. Je répète un exemple. Une personne me sert un café à New York et quelqu'un me sert le même café. Un Congolais qui vit à New York me sert un café. Et un Congolais qui vit en RDC me sert un café. La production est la même. Mais pourquoi celui qui est à New York, il a un meilleur moyen de vie que celui du Congo? Pourquoi son SMIC est élevé que celui de la RDC? Ça n'a rien à voir avec la production. C'est la valeur qu'on attache à un être humain aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la production. C'est seulement qu'aujourd'hui, au Congo, on attache... Si pas le, quelqu'un m'a dit, je répète, le sachet, hein, pas le panier de la ménagère, mais le sachet de la ménagère, aux États-Unis, en Allemagne, on s'est dit le minimum, la valeur qu'on attache à un individu, hein, il doit avoir l'eau, l'électricité, une maison, hein. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la production, ça a à voir avec la valeur qu'on attache à un humain dans le pays. Parce que c'est le même Congolais qui peut me servir le même café aux États-Unis. Mais pourquoi lui, il est mieux payé que celui qui est en RDC?
Alors, pour vous, le débat doit être tourné autour de ce qu'il faut payer à l'homme, et c'est ça qui va résoudre d'autres problèmes. Ce n'est pas question d'importer ou d'exporter.
Non, c'est pas question d'importer et d'exportation. C'est pas, on doit, la question fondamentale, pourquoi le Congolais est pauvre en RDC? La réponse est que parce qu'il vit dans un pays à revenus faibles. Et quand on va dans cette direction, c'est le premier pas dans la bonne direction pour ce long voyage.
Merci.
C'est complexe après.
Merci. Merci beaucoup, professeur. Vous estimez qu'il faut aller dans cette direction d'augmenter les revenus? Ça peut résoudre les autres questions. Merci beaucoup. Michel, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, le temps qu'on récupère Michel, nous revenons à vous, Monsieur Jean-Lucien Boussa. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique où le professeur Joseph Kimonio estime que tout doit être centré autour de revenus de Congolais? Si un Congolais a un revenu élevé, ça peut résoudre toutes les autres questions qui dépendent de l'extérieur ou de l'intérieur?
Ben, le professeur, je respecte sa réflexion, mais je pense que dans cette problématique qui est circulaire, il faut savoir poser les vrais problèmes. Quel est le problème que nous posons aujourd'hui? Le problème que nous posons aujourd'hui est, d'abord, notre production intérieure n'est pas à même de rencontrer la demande intérieure. Ça veut dire, elle n'est pas à même de rencontrer les besoins, ne fût-ce qu'élémentaires des Congolais. C'est ça la première question. Comment un pays peut-il répondre à cette question-là? Comment un gouvernement responsable peut-il trouver la réponse adéquate à cette question-là? Nous, gouvernement de la République, nous disons il faut que le peuple puisse avoir la capacité de pouvoir répondre à ses besoins basiques. Quels sont les besoins basiques des citoyens? On les connaît quand même, on peut les énumérer très rapidement. Est-ce que le citoyen doit manger tous les jours? C'est pas les professeurs qui me démontraient qu'on soit à Singapour, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, etc. Ça, c'est dit basique, ça. Un citoyen doit avoir accès à la santé, aux soins de santé, pardon. Ça, c'est dit partout dans le monde. Les gouvernements se battent pour cela. Un citoyen doit être capable de pouvoir, envoyer ses enfants à l'école. N'est-ce pas? Ça, c'est du basique. La question qui se pose, et là, je l'ai dit au professeur, elle est précise. Comment relancer par l'offre? La relance par l'offre, le prof le sait, je pense. La relance de l'économie par l'offre, c'est-à-dire par la production intérieure. Quelles sont les politiques qui nous permettent de pouvoir relancer notre économie par la production intérieure? C'est de ça que nous parlons. Et si nous avons des politiques adéquates, nous réduisons le contrôle de la satisfaction des besoins basiques de nos citoyens par l'extérieur. C'est ça la grande question.
Exactement.
C'est aussi ça l'indépendance, voilà. C'est aussi ça l'indépendance économique.
Okay.
Et donc, alors, c'est de ça que nous parlons. Je termine juste pour le professeur. Mais il y a aussi la possibilité de relancer l'économie par la demande, la distribution de revenus aux citoyens pour accroître la demande intérieure et donc provoquer la croissance économique. Mais là, on est dans un cercle vicieux où les citoyens n'ont pas suffisamment de revenus et vous voulez relancer la production par la distribution des salaires qui ne sont pas basés sur un travail bien clair. Non, je crois
c'est pourquoi j'ai lui demandé, oui, c'est pourquoi j'avais dit au professeur, peut-on augmenter les salaires sans qu'il y ait des investissements qui engagent qui de l'emploi aux gens, exactement.
Les politiques et les gouvernements adoptés depuis le 11 de ces mois permettent justement de pouvoir créer les capacités de production intérieure pour améliorer l'offre intérieure et à la clé se trouvent des emplois. Et lorsqu'on a un emploi, on a un revenu.
Ok. Alors,
et donc, on a trouvé la réponse à au problème posé.
Ok. Alors, on va écouter rapidement. Je crois, Michel, c'est bon. Michel qui est en Bandaka est avec nous. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour. Michel, bonjour. Je crois qu'on a des petits soucis des lignes tout à l'heure avec Michel Dembandaka. Alors, j'étais en train d'évoquer tout à l'heure, Monsieur le Ministre, la question de la fiscalité, parce que sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, il y en a qui disent oui, comment peut-on aujourd'hui produire localement, ne pas dépendre trop des importations, quand notre fiscalité ne peut pas nous encourager par exemple les locaux à pouvoir produire. Est-ce que cette question s'inscrit dans les stratégies aujourd'hui, la révision de la fiscalité?
Tout à fait. La question est une question essentielle. D'ailleurs, le Premier ministre et au-delà du Premier ministre, les chefs de l'État ont instruit le ministre des Finances et d'autres ministres sectoriels de travailler sur la réforme de la fiscalité. En tant que ministre du Commerce extérieur, j'insiste sur, et le gouvernement est d'accord avec moi sur la question, sur une fiscalité incitative. Et lorsque nous avons une à la fois incitative et compétitive, incitative, je l'ai indiqué tout à l'heure, pour que les investisseurs, lorsqu'ils ont des choix à opérer pour la destination de leurs investissements, qu'ils choisissent en priorité la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison, d'une part, que nous avons obtenu du gouvernement, et le Premier ministre nous a instruit encore hier à ce sujet, que l'on puisse révisiter le code de douane. Et dans les 11 mesures que j'ai proposées au gouvernement, il y en a d'autres que je n'ai pas énumérées par rapport à cela. La troisième mesure dit ceci exactement. Prendre en urgence une série de mesures incitatives d'ordre fiscal et administratif en faveur des filières de la production des biens de première nécessité et les produits de substitution aux importations. La question de la fiscalité donc est prise en compte. Une autre mesure, prendre une série de mesures additionnelles de compétitivité en faveur des producteurs locaux disposés à investir dans les secteurs où le pays dispose des avantages comparatifs avérés. Donc la question est sur la table, les instructions du président de la République sont claires, la direction donnée par le Premier ministre aussi est très claire sur le sujet, et le gouvernement y travaille, parce qu'une mesure a été ou des mesures ont été prises à ce sujet, et ce sont des mesures de mise en œuvre de court terme, et qui ont des objectifs très clairs, améliorer l'offre intérieure, diversifier, quelqu'un parle de la diversification, grâce à une fiscalité alléchante. Il y a une fiscalité compétitive. Nous pouvons diversifier facilement notre production. Nous pouvons développer dans ces pays aussi la question de l'industrialisation, des activités de transformation de la production locale et valoriser nos dotations factorielles. Donc voilà, donc le gouvernement a pris à bras-le-corps les problèmes. Voilà. Cette question qui taraude tout le monde est une question qui est déjà prise en compte au niveau du gouvernement. Et très bientôt, vous allez apprendre que le gouvernement a pris des mesures de fiscale incitative et compétitive.
Voilà. Alors, nous allons encore revenir à vous. Je rappelle à nos auditeurs, je signale à nos auditeurs plutôt que nous avons des petits soucis, des lignes téléphoniques pour pouvoir les joindre, qu'ils gardent encore la patience. Peut-être on va avoir un ou dernier de cette série. Je rappelle le numéro 081-890-4969. 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Alors là, on a des petits soucis hein, pour pouvoir joindre nos auditeurs. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir, mais malheureusement, nous sommes bousculés par le temps. Alors, on revient à vous, hein, on revient à vous, monsieur Jean-Lucien Boussa, parce qu'on doit vraiment conclure cet échange. Dommage qu'on ne peut pas avoir plus d'auditeurs aujourd'hui. Alors, vous avez dit qu'il y a ces décisions que vous avez prises. Est-ce qu'il y a un dernier auditeur? Voilà, Sylvain, vous avez peut-être 45 secondes rapidement, Sylvain, mais vous êtes dans les endroits où il y a beaucoup de bruit, hein, Sylvain.
Oui, je m'excuse, je suis effectivement ici dans la salle où on lance la journée Agro Business.
Ok, rapidement, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour sortir de la dépendance des exportations? Rapidement, parce qu'on doit permettre à notre invité de conclure.
Je n'ai pas suivi l'émission dès le début, mais d'emblée, j'ai dit qu'il faut promouvoir la production locale. Et de deux, il faut aussi améliorer l'entrepreneuriat congolais. Et de trois, il faut voir dans quelle mesure il faut rendre compétitive l'économie interne et internationale de notre pays. Mm-hmm. Sinon, sans lesquels, nous n'aurons pas les avantages concurrentiels par rapport à ces régimes-là.
Voilà, ça sont les trois éléments importants que vous avez proposés. Alors, monsieur Jean-Lucien Boussa, on revient à vous. Alors, on peut pas tout finir hein, dans une seule émission. Hein. Les mesures, elles sont nombreuses, les décisions qu'il faut prendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle note d'espoir les Congolais peuvent-ils garder aujourd'hui, qui est le gouvernement s'engage réellement qu'à un certain moment, on ne puisse plus continuer à dépendre de l'extérieur?
En tout cas, la population congolaise doit être assurée que le président de la République, chef de l'État, le premier ministre et son gouvernement sont tous déterminés à pouvoir améliorer le vécu quotidien des citoyens congolais à travers des politiques économiques vigoureuses, cohérentes et adéquates. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de pouvoir soutenir la production intérieure. Mmh. Aujourd'hui, le gouvernement est déterminé à industrialiser le pays.
Merci.
Les zones économiques spéciales sont là.
Merci.
Aujourd'hui, le gouvernement est déterminé à mettre donc les investisseurs qui viennent au Congo, qu'ils soient congolais ou étrangers.
Merci beaucoup.
Mettre à leur disposition.
Merci.
Une fiscalité alléchante et compétitive dans l'intérêt de la production intérieure.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Lucien Boussa. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Lucien Boussa. Je rappelle encore que vous êtes ministre du Commerce extérieur. Merci hein, de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci à Hippolyte Kapanga, qui était à la mise en onde, et Kiria Abatia, qui était à la réalisation. On se retrouve demain. Au revoir.